1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Et je suis Sébastien Lodenbach.
Et moi, je suis Antonin Perejatko.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir dans Ping Pong, on dort dans les arbres et on croise des animaux dangereux grâce à deux contes modernes, une comédie cartoon et une fable animée.
Avec le réalisateur Antonin Perejatko, dont La loi de la jungle, sa comédie tropicale, burlesque et survitaminée qui défie les normes françaises, sera sur les écrans mercredi prochain.
Et avec Sébastien Lodenbach pour sa relecture poétique et féministe des frères Grimm, La jeune fille sans main, son premier long métrage est un conte animé par l'émancipation et le fauvisme. Présenté en ouverture de l'Acide à Cannes, il sera en compétition au Festival du film d'animation d'Annecy du 13 au 18 juillet.
Qu'est-ce que tu fais là?
Eh ben, je me mets au boulot. C'est pas parce qu'on est en pleine jungle que tout doit s'arrêter d'un coup.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong.
Les voix sont accélérées et post-synchronisées. Nous sommes dans un style Perejatkoien. Est-ce que vous acceptez l'adjectif, Antonin Perejatko?
Oui, je veux bien. Pourquoi pas? Allons-y.
C'est un monde où tout le monde est stagiaire aussi, ce monde de La loi de la jungle, votre deuxième long-métrage. Presque tout le monde est stagiaire et quand on gagne le gros lot, bah, on est envoyé en Guyane, surveiller si la construction de Guyanège, un centre de station sportive en pleine Guyane, et évidemment avec tous les moyens qu'on peut imaginer, c'est-à-dire des ressources pas très écologiques, va être monté. C'est une absurdité, mais c'est une absurdité qui a presque existé, en tout cas puisque vous êtes parti d'une idée de base qui était un pont qui existait vraiment entre le Brésil et la Guyane, qui n'était pas aux normes européennes et qui, du coup, pour ces raisons-là, n'est emprunté par personne. Donc, dans quelle mesure, finalement, le monde est devenu totalement absurde et vous avez à peine grossi le trait?
À peine, puisque cette station de ski est inspirée par celle qui existe en Arabie Saoudite. Il y en a une qui est gigantesque, il fait 0 degré à l'intérieur, il y a même des pingouins. Voilà, bon, pourquoi pas. Ça a été fait. Mais surtout aussi, c'est cette Coupe du Monde de foot en 2022 au Qatar, où il fait donc très très chaud parce que les footballeurs s'inquiètent un petit peu quand même pour leur santé, pour les matchs. Et donc, on va refroidir les stades. Alors, les stades sont faits en plein air, donc on va quand même refroidir l'atmosphère, quoi. Donc voilà, c'est parti des absurdités du monde qui nous entoure. Finalement, je pense que il n'y a pas à désespérer du monde. Je trouve qu'il est assez amusant, assez comique finalement.
Voilà. C'est la persistance des petits gestes que chacun continue à avoir dans cette absurdité. Je trouve qu'il fonctionne bien dans votre cinéma, La loi de la jungle. C'est l'idée de mettre des parcs-mètres en pleine jungle guyanaise, par exemple.
Oui, mais ça reste finalement une allégorie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois, on commence les constructions à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par faire le parking et puis à faire les parcs-mètres avant même de savoir s'il va y avoir du monde qui va venir. Par exemple, pour moi, je continue cette absurdité en montrant qu'on va construire finalement un complexe sportif écologique, mais en bousillant la forêt. Voilà. Et je pense que... Et pour montrer bien que c'est écologique, on va le peindre en vert. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on retrouve tout à fait dans le monde qui nous entoure. Moi, je pense que on vit dans un monde complètement absurde et je n'en vois pas sa finalité, à part la finalité du profit personnel. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une finalité collective là-dedans.
Sébastien Lodenbach, si vous non plus, sans doute, vous n'apercevez pas la finalité de la vie sur Terre, en particulier en ce moment, plutôt que de répondre par une comédie cartoonesque, tropicale et même tropicaliste, cannibale et absurde comme Antonin Perejatko, vous choisissez d'adapter, de dessiner un film, donc un film animé. Vous adaptez un conte des frères Grimm, La jeune fille sans main. Vous choisissez comme trait, justement, un dessin mouvant, presque évanescent, et vous dites que vous avez fait un film qui parle beaucoup aux enfants, comme les contes leur parlent, parce que, je vous cite, ils acceptent de vivre dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Alors, précisément, est-ce que plutôt que l'absurde, vous avez choisi d'apporter du mystère à notre vie, et peut-être parce que c'est la même chose, vous avez décidé d'apporter plutôt de la poésie?
Difficile de répondre à cette question comme ça.
Vous avez une heure.
J'ai une... D'accord.
Et vous avez fricoté avec le poète Luc Benazet aussi, hein, rappelons-le.
À moins d'une heure, parce que moi je compte bien rajouter mon grain de sel, hein, je vous le dis tout de suite.
En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de nous avoir invités ensemble, parce qu'effectivement, outre le grain de sel, c'est vrai que le cartoon n'est pas du côté du dessin animé, mais du côté du film en prise de vue continue. Et moi, je suis plutôt du côté de l'évocation. Et je trouve ça assez singulier aujourd'hui. Voilà, le film en prise de vue réelle, comme on dit, ou que moi j'appelle prise de vue continue, de prenne en main ce côté cartoon. Je trouve ça assez salutaire. En ce qui me concerne, il faudrait que je raconte un petit peu l'histoire de la fabrication de ce film pour répondre à la question. Mais
c'est aussi une tragédie avec une fin heureuse, hein, comme votre film.
C'est une tragédie avec une fin heureuse, puisque c'est un film qui a connu plusieurs étapes de développement et qui devait être un film, je dirais, fabriqué dans des conditions normales, et qui finalement a été abandonné au bout de plusieurs années de développement. Et j'ai eu la possibilité de le reprendre, mais complètement tout seul. Et quand on fait un film d'animation tout seul, on le pense forcément différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire semblant d'être un studio de 40 personnes quand on est tout seul, quoi. C'est absurde. Et donc, ce qui fait que comme je suis plutôt feignant, je me suis dit que j'allais faire que des morceaux de dessin. Ce qui a donné cette esthétique dont vous parlez. Donc, effectivement, les dessins sont tous pas finis, mais l'animation, elle, est finie. Et le film est fini, je rassure. Je rassure les auditeurs, mais ça donne cette dimension justement mystérieuse, et plus je le faisais, et plus je me rendais compte que c'était en fait partie prenante de la dramaturgie, de l'histoire et de ce qui constitue cette histoire. Et pour revenir aux enfants qui sont dans un monde qu'ils ne connaissent pas, c'est plutôt qu'ils sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas. J'avais été assez marqué par... c'était Michel Oslo, en fait, qui racontait ça par rapport à Kirikou.
Le père de Kirikou, voilà.
Voilà, qui disait qu'il était étonné que Kirikou puisse être vu par des enfants très petits. Enfin, je me souviens de l'avoir entendu dire ça. Et il disait, mais finalement, voilà, les enfants sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas, donc je vois pas pourquoi on devrait faire des films qu'ils devraient comprendre. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc effectivement, ce film a des parts obscures, il y a des zones d'ombre, mais même pour moi, il y a des choses que je ne m'explique pas dans ce film, puisque le film a été fait aussi un peu comme il a été fait très vite, et qu'avec des dessins. Il n'y a pas eu vraiment de scénario avant, il a été écrit avec des dessins, il y a une espèce d'écriture automatique, et donc il y a des choses qui sont survenues et que je ne maîtrise pas complètement.
Ce film est fait pour vous. Si vous aimez la neige, si vous préférez la pluie, si vous aimez prendre l'avion, si vous préférez le bateau...
Vous comptez nous sauver avec ça ? Là,
si vous aimez les serpents, ou si vous ne les aimez pas, ce film est fait pour vous. Si vous aimez l'escalade, même si vous aimez le foot, ou que vous préférez le golf...
Voilà pourquoi je suis votre supérieur et que vous êtes les stagiaires.
Si vous aimez les énarques...
La loi des États laisse place au règlement des multinationales.
Ou si vous préférez les paresseux, si vous aimez la tendresse, ou si vous méritez des baffes, ce film est fait pour vous. Si vous aimez les flingues, ou que vous préférez les papillons, si vous aimez les jolies filles, ou que vous préférez les gros bras, si vous n'aimez pas vous faire tripoter,
je déteste ça,
ou si vous changez d'avis, ce film est fait pour vous, avec Vima Laponce.
C'est moi.
Vincent Mackay.
Ah, saloperie de nature, va. Saloperie de nature.
Pascal Légitimus. Mathieu Amalric. Et Jean-Luc Bidot. Ici, vous êtes en Guyane.
En route pour le pôle Nord.
Alors, même si vous préférez les livres au pognon, blanc, jaune, noir, orange, vert, bleu, vous êtes susceptible d'aimer La loi de la jungle.
La loi de la jungle, le deuxième long métrage dont on a un père et Jadko avec l'inénarrable Vincent Mackay et l'ouragan Vima Laponce. C'est ainsi qu'ils s'inscrivent au générique, comme d'habitude, très travaillé chez vous. Il y a beaucoup de cartoons, on l'a dit, on aimerait rentrer dans le détail, comment ça s'est fabriqué. Il y a même une scène de bagarre avec des boom, cheba, pop, plop, quiz. Enfin,
pas tout à fait,
il y a beaucoup de post-synchro. Oui.
Mais non! Mais non, 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 il n'y a pas de post-synchro.
Non,
mais
qu'est-ce que c'est que ces boum, tous ces bruitages?
Non, c'est chez moi qu'il y a de la post-synchro, en fait.
Tous ces bruitages. En tout cas, vous l'avez vraiment construit comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est... Oui, c'est une bande dessinée animée, c'est un vrai comic strip, c'est un Tex Avery. La musique, le montage, vous le faites aussi?
Oui, enfin, à quatre mains quand même, hein. Je ne peux pas tout faire non plus, même si c'est mon rêve absolu, un peu comme Sébastien. Mais en prise de vue réelle, c'est parfois un petit peu plus délicat. Mais disons que le film, pour moi, c'est vraiment... on pourrait le... comment le... le qualifier de film baroque, par exemple, où vraiment c'est un mélange et une harmonie des contraires, c'est-à-dire qu'on va aller très loin dans le burlesque et puis après on va aller très loin dans la poésie, dans le romanesque, dans le romantique, voilà, dans l'humour de situations, de mots, plein de comiques.
Dans la violence et la tendresse.
Dans la violence et la tendresse, voilà. Donc la difficulté, c'est quand on écrit un film comme ça, c'est de savoir si effectivement si ça va prendre, si la mayonnaise va prendre, si ça va pas faire un film à sketch, par exemple. Donc ça, on s'en aperçoit au montage. Et tout le travail du montage est là pour lier le film. Alors, en fait, nous avons tourné, on tourne à 22 images secondes, on ne tourne pas à 24. Normalement, les films se font à 24. Bon, il se trouve que là, non. Parce que j'avais envie de donner un peu de rythme, enfin d'accélérer les... Voilà, un peu tout ce qui se passe, et puis surtout de donner une démarche particulière aux comédiens. Parce que autant, par exemple, en agglomération, si vous accélérez la prise de vue, ça se perçoit, ça se voit, parce que tout est accéléré. C'est vrai que du coup, dans la forêt, s'il n'y a pas de vent dans la forêt, ça se perçoit difficilement. Donc, ça va donner une démarche particulière aux personnages. Et du coup, les voix sont légèrement un petit peu accélérées. Donc les personnages, ils ont un peu une voix aiguë. Voilà.
Il y a Thomas Pourquery, entre autres, qui apparaît, qu'on a déjà reçu ici dans Ping Pong, qui a une voix très accélérée quand même.
Qui a une voix accélérée. Alors parfois, on les corrige ou on les corrige pas. Donc lui, par exemple, on l'a pas corrigé. Voilà. Et donc après, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Et puis il y a des plans qu'on va filmer à 24 et puis d'autres à 21. Et là encore, ça dépend de la grosseur du plan. Un gros plan, par exemple, on va plutôt le filmer à 24. Un plan large, c'est une autre inertie. Donc tout de suite, on va le filmer légèrement en accéléré. Mais évidemment, il faut que ce soit... il faut quelque part que la scène le demande. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce que veut dire la scène.
Il y a ce côté extrêmement cartoon, il y a aussi ce côté très circassien. C'est vrai que Vim à la Ponce, on l'avait connu évidemment dans La fille du 14 juillet, on l'avait déjà vu faire un petit peu de ce qu'elle sait faire, parce que par ailleurs elle est circassienne. Mmh. Là, vous l'utilisez à plein régime, vous l'avez utilisé encore plus, le cirque, j'ai l'impression, dans La loi de la jungle que dans La fille du 14 juillet. Vous qui étiez d'ailleurs apprenti magicien, vous continuez à en faire un petit peu de la magie.
Un petit peu, je touche l'oreille, je ne sais pas ce qui va sortir de votre oreille, Antonin Perez-Jadot.
Ah, non, je ne touche pas.
Un lapin, attention.
Bah, d'ailleurs, elle sort des trucs du chapeau. Enfin bon, c'est pas des tours de magie, d'accord. Mais par exemple, au moins ça solutionne bien des problèmes. Parce que par exemple, à un moment, bon, il fait nuit, donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va avoir une bougie, ok, mais d'où elle la sort la bougie? Elle la sort de son chapeau. Et puis voilà, comme ça, le problème est réglé. Et donc, effectivement, ça a ça du cartoon, c'est-à-dire que les personnages sortent l'accessoire dont on va avoir besoin dans la scène. Et puis après, la scène d'après, c'est réglé, terminé, on n'en parle plus. Alors, ça, c'est toujours un risque également, parce que ça déréalise complètement une situation. Il se trouve que là, ça correspond à l'esthétique. Donc, ça passe naturellement, finalement, ce genre de choses.
Oui, c'est seulement 22 fois la vérité par seconde, votre cinéma,
voilà,
la différence de celui de Godard.
Voilà,
et les deux autres images
un peu moins,
sont de la magie.
Voilà, c'est on ment. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est quelque part, j'ai rien inventé. Hein, c'est Méliès, la magie. Il y a deux. En fait, on peut dire qu'il y a l'école Lumière, hein, plutôt réaliste, et puis il y a l'école Méliès, plutôt un peu.
Vous avez fait l'école Lumière, vous, entre autres.
Oui, ben, j'aurais mieux fait de faire l'école Méliès.
Vous vous rattrapez dans La loi de la jungle.
Alors lui n'a fait ni l'école Méliès ni l'école Lumière. Il nous emmène dans un conte dessiné et néanmoins palpitant, donc sa jeune fille sans main.
Ah, quelle belle chose de voir un homme au travail. Son odeur de charogne masque sa défense. Elle a pleuré sur ses mains, je ne peux pas l'emporter. Casse la chaîne. Coupe-lui les mains.
Une parole est une parole et vous m'avez comblé. Mais je ne peux pas couper les mains de ma propre fille.
Coupe ! Ou c'est toi que j'emporte. Et alors tu auras tout perdu.
Père ! Père, voici mes mains. Faites-en ce que vous voudrez. Je suis votre fille, je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur par ma faute. Il ne me reste que vous.
La jeune fille sans main, un film, un conte dessiné, donc présenté en ouverture de la sélection de l'Acide au dernier Festival de Cannes et qui sera bientôt le 16 juin projeté en compétition parmi les longs métrages du Festival de films d'animation d'Annecy, Festival international. Sébastien Lodenbach, là on découvre donc ce qui fait le sel, le cœur, le noyau de cette histoire tirée donc d'un conte des frères Grimm, un meunier désargenté qui vend par mégarde au diable sa fille très pure, et qui se voit donc obligé de lui trancher les mains. On reconnaît la voix d'Anaïs de Moustier et celle de Philippe Lodenbach, votre grand-oncle, dans le rôle du diable. Il y avait aussi Olivier Broche qui joue le père dans cet extrait. Est-ce qu'on peut dire que ces mains coupées, on n'est pas chez Blaise Cendrars, c'est une métaphore à la fois de la condition féminine, parce qu'elle a quelque chose d'une Amazone, votre héroïne, et aussi peut-être une métaphore de l'aventure qui était la vôtre. Vous nous en avez dit un mot, les difficultés que vous avez eues avant de voir apparaître ce film et pouvoir le réaliser seul, tranquillement, dans la quiétude, la solitude et l'improvisation la plus jazzistique qui soit. Voilà, quand on se fait couper les mains, on est obligé de se mettre en marche, dit-elle. C'était aussi votre cas.
Oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça. C'est assez étrange, effectivement, l'histoire de ce film, puisque comme je le disais tout à l'heure, au départ, c'était l'adaptation d'une pièce d'Olivier Py qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin, qui est elle-même l'adaptation du conte de Grimm, La jeune fille sans main. Et lorsque ce projet a été abandonné parce qu'on n'a pas trouvé assez d'argent pour le faire dans des conditions, je dirais, normales, cette histoire me restait en tête. J'avais été extrêmement touché. C'était les films Péléas, en fait, qui était donc producteur de ce premier projet, qui m'avait proposé de le réaliser. Et quand j'ai lu cette pièce, quand j'ai lu le conte et quand j'ai lu toutes les versions de ce conte, puisqu'il existe différentes versions dans différentes cultures, il y a des versions avec diable, des versions sans diable, des versions avec ange, sans ange, etc., avec jardinier et sans. Il y avait toujours ce destin de cette jeune fille qui, alors, sans jouer sur les mots, mais quand même, c'est ce qui parle le mieux de cette histoire. Elle doit vraiment apprendre à se prendre sa vie en main réellement, et elle en a plus, et donc effectivement elle marche, elle erre beaucoup, et c'est je crois que c'est ça qui m'a parlé tout de suite, le destin, voilà, c'est un joli lapsus, le destin de ce personnage qui doit aussi s'isoler pour se reconstituer, qui doit être, elle est loin des hommes.
Oui, parce que l'enjeu aussi, comme souvent dans les contes, c'est de savoir donner sa main, et donc oui. Il faut peut-être passer par une épreuve avant d'y parvenir tout à fait.
Il y a une histoire de d'homme et de femme dans ce conte-là. Cette femme, elle rencontre des hommes. Elle est avec son père au début. Elle est avec un prince après. Et puis le prince n'est pas un prince charmant, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a parlé. C'est qu'il fallait qu'elle soit seule à un moment. Alors elle n'est pas tout à fait seule puisqu'elle est aussi avec son enfant. Mais il y a un moment d'isolement. Et il se trouve que c'est exactement ce qui s'est passé pour la fabrication du film. Donc je continuais à y réfléchir. J'avais envie de le faire avec des acteurs. Je voulais le faire en bande dessinée. J'ai imaginé différentes manières d'adapter cette histoire en repartant du conte. Et puis c'est ma femme, en fait, qui m'a donné la possibilité de le faire, puisque donc elle a été pensionnaire.
C'est féministe jusqu'au bout.
Voilà,
cette histoire,
c'est ça. Bien. En étant pensionnaire à la Villa Médicis, on avait un an. Voilà, elle m'a emmené dans sa valise et j'avais un an devant moi avec du temps.
Alors là, on parle de l'histoire, mais revenons à votre dessin, précisément. Votre lapsus nous y invite tout à l'heure.
Oui, c'est très étrange de n'entendre que le son, parce que c'est un film très visuel.
Et vous nous avez dit quelque chose de votre art de l'ellipse et du trait dessiné. Tout a été dessiné sur papier. Vous avez même théorisé votre geste, la cryptokinographie. Hein, le mouvement est nécessaire à la compréhension, à l'élucidation du dessin. On élucide tout, on comprend tout quand on voit ce film animé. Mais disons peut-être quelque chose de la couleur, parce qu'il y a des couleurs très vives, très acidulé dans La Loi de la Jungle d'Antonin Perejatko. Et chez vous, au contraire, on est plutôt dans l'ocre et les couleurs phosphorescentes. Quand la nuit vient, on a l'impression que ce sont des couleurs mentales. Quel rôle jouent les couleurs dans La jeune fille sans main ?
Les couleurs, elles véhiculent de la sensation. C'est très simple, en fait. Moi, j'ai été, je pense, assez marqué par certains peintres. Alors, vous parliez des fauves tout à l'heure. C'est plus quelqu'un comme Maurice Denis qui m'a beaucoup influencé avec des couleurs qui ne sont pas naturalistes. Voilà, donc c'est des couleurs plus du sentiment et de la sensation. Donc c'est vrai qu'on a des arbres bleus, on a des rochers qui peuvent être mauves, verts, des ciels qui peuvent être de différentes couleurs.
Et les personnages changent de couleur.
Alors non, justement, les personnages sont tous incarnés par une couleur. La jeune fille est bleue, le prince est pourpre, le diable est vert. Voilà, mais parce que comme les personnages sont très esquissés, c'est vrai que pour les auditeurs, ça ne doit pas être évident. Comme j'ai fait le film avec des moyens très pauvres, je me suis dit bon ben voilà, on va aller à l'essentiel. Et donc comme je n'étais pas certain en plus qu'on puisse reconnaître les personnages, parce que j'ai fait le film dans l'ordre chronologique, ce qui ne se fait jamais. En fait, j'ai fait les choses absolument comme il ne faudrait pas, mais ce qui donne un film à mon avis.
Mankiewicz faisait ça à la grande époque. Hein.
Ah ouais, bon, merci. Mais voilà, donc je me suis dit, bah chaque personnage aura une couleur. Il n'y a pas beaucoup de personnages et voilà. J'espère qu'à la fin du film, on reconnaît les personnages du début.
Il y a Trafic de Soderbergh aussi pour des ambiances comme ça, par colorama. Mais si on reparle de l'ambiance feuillue, touffue et verte de la jungle d'Antonin Perejatko, il y a une couleur qui jaillit assez régulièrement, c'est le sang. Comment est-ce que vous avez abordé la violence ? Parce que c'est vrai qu'on se souvient des scènes de tranchement de doigts, puis de tranchement de bras, puis de tranchement de tête dans La fille du 14 juillet. Oui. Mais là, dans votre deuxième long métrage, La loi de la jungle, il y en a aussi du sang et de manière aussi accélérée d'une certaine manière. Est-ce que vous n'avez pas dosé davantage ? Vous dites qu'aujourd'hui, dans un monde qui ne regarde pas assez la mort en face.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est plus de la violence que du sang. De la violence encore, que ça reste encore.
Corps écrasé sous un bulldozer.
Oui,
c'est rien du tout.
C'est très très commun.
C'est tous les jours.
Voilà.
Mais tu tranches des mains, toi, dans ton film
Non, rien n'est tranché.
Il avait tranché dans la fille du 14 juillet.
Oui, c'était dans le précédent, effectivement.
Il infecte des mains.
Non, mais après, c'est une violence. De toute façon, La loi de la jungle, à partir du moment où on fait un film comme ça, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une violence. Après, ça peut être une violence psychologique ou une violence affective ou une violence, économique, etc.
Elle est à tous les étages, d'ailleurs, cette violence.
Oui, absolument. C'est parce que le monde dans lequel on vit est extrêmement violent, je trouve. Et pareil à tous les niveaux.
Ouais. Comment est-ce que vous avez voulu l'aborder, du coup, cette violence-là, dans l'écriture et dans la mise en scène? Parce que vous dites parfois que aujourd'hui, il y a des films qui ne se prennent pas au sérieux, qui ne sont pas pris au sérieux. Est-ce que vous avez quand même essayé justement de faire passer des choses sérieuses?
C'est souvent le problème de la comédie, c'est-à-dire que la comédie, on vient à dire des choses qui ne sont pas prises au sérieux, sous prétexte que le film se veut drôle ou burlesque. Donc... de toute façon, le burlesque pour moi représente est vraiment un genre qui représente très très bien la violence, parce que par exemple, chez Chaplin, la violence est tout le temps présente. Pour les temps modernes, par exemple, c'est un film extrêmement violent, sur une violence économique, et puis le film totalement hilarant et totalement burlesque. Donc je pense que le burlesque a toujours ça en lui, c'est-à-dire une violence du monde ou une tristesse qui est retourné comme un gant qu'on retourne. Donc, c'est ça qui est important aussi dans les films burlesques, qui pour moi m'émeut, c'est qu'il y a toujours un film peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'au-delà du gag, il y a des significations. Voilà. Et donc, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi, par exemple, Vincent Macaigne. C'est parce que il porte quelque chose en lui de burlesque et à la fois de dramatique. à la fois une grande joie et une grande tristesse dans le visage. Et quelque part, Vima Lapon, c'est aussi la même chose, cette chose-là en elle, à la fois de joie et de tristesse. Et en plus, ce sont deux comédiens qui peuvent jouer d'une manière vraiment très forte avec leur corps, où je savais qu'ils pourraient aller se rouler dans la boue, se rouler dans les feuillages, ou éventuellement il peut y avoir des araignées ou des migales ou des chenilles urticantes.
Il faut le dire.
Qui sont vrais dans le
film. Des vraies araignées.
Voilà, des vrais animaux. Et donc les lucioles sont vraies. Enfin, vraiment, je voulais, ça c'était très important pour moi, j'avais envie d'avoir de vrais insectes dans le film. Je voulais pas avoir des images de synthèse. J'avais très très peur de ça, parce que si on voit justement que ce sont des images de synthèse, du coup après ça décrédibilise tout le film. Et comme c'est un film où les comédiens font énormément de choses avec leur corps, du coup après c'est ouvert à toutes les possibilités. Et après on se dit oui, mais là peut-être c'était une doublure. Ah mais ça c'est faux. Ça c'est des images de synthèse. Et donc pour moi c'était très important. De retrouver finalement le jeu physique des films du muet, quoi.
Sébastien Lodenbach, il y a des vrais dessins dans votre film.
Dessins de lucioles, il y a des vrais dessins d'insectes, des vrais dessins d'arbres.
Mais c'est des dessins faits avec une machine ou avec un humain?
Ça, on ne sait plus au bout d'un moment, parce que l'humain s'est un peu transformé en machine.
Très bien.
Non, mais là, la mise aux normes va être ingérable. Hein. Est-ce que au moins je peux avoir les autorisations en bonne et due forme?
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission volontiers ingérable.
Vincent Macaigne dans le rôle de Châtaigne, Vima Lapon dans le rôle de Tarzan. C'est La Loi de la Jungle, une réalité alternative et feuillue dont on reparlera avec Antonin Imper et Jadko. La fille aux mains coupées, ce conte métaphorique de Sébastien.
La jeune fille sans main.
Qu'est-ce qui se passe?
Sandra,
la jeune fille sans main.
Dessus,
excusez-moi, ce conte des frères Grimm, adapté par Sébastien Lodenbach. C'est à suivre dans Ping Pong.
Mais tout de suite, pour un journal de la culture touffu, feuillu, une jeune fille qui a des mains et qui s'en sert pendant qu'elle parle dans le micro.
Zoé Sfès, bonsoir. Des mains feuillues,
on y va. Bonsoir Mathilde, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Zoé, vous consacrez ce soir votre dossier au Centre d'art contemporain de Quimper, baptisé Le Quartier. Il a fêté l'année dernière ses 25 ans, a attiré chaque année plus de 15 000 visiteurs, mais on en est certain aujourd'hui, il sera contraint de fermer ses portes à la fin de l'année, car la nouvelle municipalité Les Républicains ne souhaite plus le subventionner, et ce, malgré les propositions du ministère de la Culture.
Oui, alors Le Quartier fait partie de ces centres d'art contemporain disséminés dans le territoire, fruit de la politique de décentralisation qui date essentiellement des années 80, des années langues, et tout ce tissu-là est de plus en plus attaqué. Ils sont de plus en plus nombreux, tous ces centres à fermer. Il y a eu des églises à Chelles, le CAC de Brétigny-sur-Orge, il y a quelques semaines la galerie du Pont d'Ourvan dans les Côtes-d'Armor. Et donc aujourd'hui, c'est Le Quartier. Le nouveau maire de la ville, Ludovic Jolivet, donc jeune maire Les Républicains, ne souhaite plus lui accorder les 250 000 euros de subvention qu'il coûte à la ville. Je rappelle que comme tout lieu subventionné, il est aussi subventionné à toutes les échelles par le département, la région, évidemment par l'État. Pour Jean-Yves Crochemont, président du quartier, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle et un très mauvais signal.
Voilà 25 ans qu'il faisait un double travail, à la fois d'accompagnement des artistes contemporains vivants, à la fois une vitrine de ce que produisent les arts visuels et les arts plastiques, la relation avec un public qui le fréquentait de plus en plus assidûment, évidemment tout un travail autour de la sensibilisation artistique et même de l'éducation artistique auprès des nouvelles générations. Les centres d'art contemporains sont précieux dans le dispositif, ils sont pas si nombreux sur le territoire et en plus en Bretagne, ils ont été plusieurs ont déjà disparu. Il ne reste que deux centres d'art contemporain dans le Finistère, un à Brest, Passerelle. C'est très important de continuer à suivre les artistes d'aujourd'hui. L'école d'art qui se trouve juste à côté avec les élèves artistes n'auront plus ce centre d'art qui est un lieu absolument formidable pour eux.
Au-delà du fait que Le Quartier était le seul lieu d'art contemporain de Quimper, Zoé, eh bien sa fermeture signifie le licenciement de 9 salariés, mais le maire a refusé toutes les solutions proposées.
Oui, 9 salariés donc qui travaillent au quartier, dont certains sont là quasiment depuis le début, depuis 25 ans, avec des profils évidemment liés à l'art contemporain, difficile probablement pour eux de retrouver un emploi, il faut le dire clairement. Par ailleurs, contrairement à certaines villes où il y avait des galeries, des lieux privés qui exposaient de l'art contemporain, ça a été souvent l'argument justement pour fermer les centres subventionnés, eh bien quand son père n'a pas du tout dans ce domaine de lieu dédié en dehors du quartier. Alors j'ai bien sûr voulu parler du quartier avec le maire de Quimper, mais on m'a indiqué à la mairie que mon interlocuteur ne serait ni le maire, ni l'adjoint à la culture, mais l'adjoint aux finances, Georges-Philippe Fontaine, quand je lui ai demandé pourquoi c'était lui qu'on avait choisi pour me répondre, voilà ce qu'il m'a dit.
Parce que c'est plus un dossier budgétaire, un dossier financier, avec une problématique liée aux baisses de dotation et à l'augmentation des dépenses de la collectivité, plus qu'un dossier culturel. Personne ici n'est fondamentalement pour la fermeture d'un établissement culturel comme le quartier. Aucun adjoint n'est contre l'art contemporain. Malheureusement, c'est 10 millions d'euros que nous avons perdus. Qu'à un moment donné, la collectivité se trouve face à des choix. Vous allez me dire, mais pourquoi le quartier ? Parce que on considère que l'offre culturelle à Quimper, elle est suffisante. On fait un petit peu, entre guillemets, le sacrifice du quartier pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir consolider l'offre culturelle. Et ce qu'on veut pas, c'est faire du saupoudrage, mais au contraire, c'est pérenniser, consolider le reste de l'offre culturelle.
Et le ministère de la Culture, qui lui non plus n'a rien contre l'art contemporain, eh bien avait proposé un certain nombre de solutions ou de propositions pour continuer à financer le quartier sans succès.
Effectivement, le ministère, donc qui est conscient, on en a beaucoup parlé dans ce journal ces dernières années, de l'effort qu'il demande aux collectivités, qui est soucieux de veiller à ce que ce ne soit pas toujours la culture qui paye, a proposé une solution, c'était d'augmenter sa propre subvention, qui est déjà conséquente, de 20 000 euros, donc 20 000 euros en moins pour la ville à payer, mais aussi en parallèle de subventionner le conservatoire de musique de Quimper à hauteur de 100 000 euros, puisqu'on le sait que dans les conservatoires aussi, les subventions ont baissé. Donc une solution de pack de groupe, comme ça a été proposé dans plusieurs collectivités qui souvent ont accepté. Mais là, la proposition a été encore refusée par la mairie. L'adjoint à la finance a dénoncé, je cite, un chantage et expliqué que la ministre n'avait pas à donner de leçons. Pour Jean-Yves Crochemort, le président du quartier, c'est bien le signe que, contrairement à ce que dit la mairie, il s'agit bien là d'un choix politique.
Je m'inscris en faux. Je pense que c'est un choix éminemment politique. Il y a une disproportion terrible entre les chiffres annoncés par la ville, qui sont incontestables. Hein. La ville se plaint de baisse de dotation de l'État depuis plusieurs années. Nous avons tout à fait entendu ces difficultés budgétaires et financières de la ville depuis 2 ans, au point de remodeler le centre d'art et de trouver un périmètre financier complètement différent qui permettait à la ville, à moindre coût, et grâce au soutien des 3 autres partenaires financeurs publics, la région, le département, l'État, de maintenir en vie ce centre d'art avec une subvention de la ville qui serait passée de 350 000 en euros en 2014 à autour de 150 000 euros en 2017. Donc l'argument uniquement économique n'est pas recevable. C'est un choix politique qui nous atterre et qui nous révolte.
Voilà. Et malgré la révolte, en l'état des choses, eh bien, le quartier, puisque sa subvention ne sera pas votée pour l'année 2017, probablement fermera ses portes à la fin de l'année.
On passe aux brèves, Zoé, au feuilleton médiatique du week-end.
Oui, le ton monte entre le CSA et Laurent Ruquier. Le CSA a vivement démenti les propos de Laurent Ruquier qui a affirmé samedi soir avoir été contraint par le CSA d'inviter le numéro 2 du FN, Florian Philippot, dans son émission « On n'est pas couché ». Il avait protesté à France Télévisions en envoyant une lettre à Delphine Ernotte. Le CSA nous impose et nous demande de recevoir quelqu'un. Moi, on me dit de recevoir, je reçois. Ça y est, le Front National sera venu au moins une fois cette année avant la fin de la saison, comme le CSA nous l'a demandé. Des déclarations qui sont une contre-vérité pour le CSA, car les contrôles des principes du pluralisme, c'est-à-dire une exposition équitable sur chaque antenne et différents courants politiques, s'exercent, je cite, dans le strict respect de la liberté éditoriale. Jamais le Conseil n'a assez permis aucune ingérence dans les politiques d'invitation des personnalités politiques, écrit CSA.
Marie Lavandier prend la tête du Louvre Lens à la fin de l'été.
Cette historienne spécialiste de l'art du XXe siècle, conservateur général du patrimoine, va prendre donc la direction de l'antenne du Louvre dans le Pas-de-Calais, dont les résultats sont corrects mais pas aussi bons qu'attendus. Elle succède ainsi à Xavier Dectot qui part prendre un poste en Écosse. Elle a jusqu'ici dirigé notamment les musées de Nice. Elle est reconnue notamment pour ses qualités, je cite, de transparente, notamment lorsqu'elle a géré des crises, des dossiers sensibles sur des questions de restauration d'œuvres.
Cacher ce sein que je ne saurais voir. Athènes veut mettre à l'abri un quart des statues en bronze ornant ses rues et places après la multiplication, non pas de gens choqués, mais de cas de vandalisme
mais
et de
oui,
vol d'œuvres.
Ce n'est pas une question de sein, mais c'est une mais question oui. de métal, car vous le savez, les statues en bronze sont très prisées en temps de crise. Les gens volaient ces œuvres pour pouvoir les couler et en rapporter de l'argent. Sur les 201 statues recensées dans la capitale, 49 doivent être remplacées par des moulages. Sans fournir de liste, elle précise la mairie qu'il s'agit de celles qui sont situées dans les zones jugées les plus exposées à la délinquance urbaine. La plupart sont en plein centre, comme les abords des bâtiments néoclassiques qui abritent l'Académie, la Bibliothèque nationale. C'est là que 5 bustes en bronze qui ornaient la cour du centre culturel municipal ont été volés le 25 mai dernier.
Merci Zoé. Et je vous dirai, comme dans la fille du 14 juillet, c'est parce que Hector n'était pas là pour les garder.
Ping-pong. La culture sans limite.
J'y suis pour rien, moi, si les gens sont radins. Attends, ils sont peut-être tous victimes de la crise, comme toi.
C'est pas possible, on serait trop nombreux.
La commune ! Achetez ! Achetez la commune ! La commune !
La fille du 14 juillet avec Vima Laponce et Vincent McCain. C'est votre premier long métrage. Antonin Perejadko s'est présenté à Cannes en 2013 à la Quinzaine des réalisateurs. S'ensuit un article des Cahiers du cinéma qui reconnaît parmi vous et d'autres une nouvelle génération de cinéastes français. Les Cahiers du cinéma, bah, le temple aussi de la nouvelle vague. Et vous, vous en êtes en tout cas un petit peu inspiré. En tout cas, vous avez une manière de la citer assez régulièrement. Là, on a entendu Vima Laponce proposant La Commune. Quelques minutes plus tard, on verra une scène qui nous rappelle À bout de souffle. Elle est un peu une Jean Seberg qui propose le Herald Tribune, sauf que là, c'est La Commune.
Hein.
Elle n'a pas d'accent, mais on retrouve ces citations chez vous régulièrement. Et dans La Loi de la Jungle, votre deuxième long métrage aussi, il y a un final à la Godard, à la Une femme est une femme. Qu'est-ce que ça a comme place chez vous? C'est vrai, cette citation, est-ce que c'est inconscient? Est-ce qu'on est les seuls à les voir?
C'est plutôt inconscient. C'est-à-dire que le film n'est pas dans la citation ou le pastiche, comme par exemple peut l'être OSS 117, des choses comme ça. C'est plutôt des influences. Voilà. C'est-à-dire que, on voit des films, on voit énormément de films, tous différents des autres. Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est-à-dire que ça va, de Kurosawa à Louis de Funès, en arrivant à Carax, en passant, voilà. Et donc, et quelque part, ces films-là vous imprègnent et après vous suivent un peu toute votre vie. Donc, parfois, ça peut vous influencer de manière inconsciente dans votre façon de parler, dans votre façon de vous habiller ou des choses comme ça. Et donc, ou dans votre travail, parfois. Alors, il se trouve que, moi, je fais des films. Donc, forcément, il y a des choses comme ça, des réminiscences qui vont arriver quand je tourne. Et donc, c'est-à-dire que jamais, par exemple, on se dit, tiens, on va tourner tel plan parce qu'il y a eu tel plan dans le film. Enfin,
c'est comme des vieilles remontées d'acide, sauf que c'est des remontées de nouvelles vagues.
Ou de cinéphilie, finalement.
Oui, parce qu'il y a des citations, ou en tout cas des remontées qui sautent aux yeux. On pense à Fellini avec l'ouverture de votre film, transportée en hélicoptère dans la jungle. On pense à Godard, bien sûr. On pense à Bud Spencer et Terence Hill à l'occasion d'une bagarre bien sentie.
Références... Non, mais vous allez trop au cinéma, arrêtez.
Voilà, les références sont nombreuses, mais vous aussi, Sébastien Lodenbach, avec votre nouveau film, vous suscitez des comparaisons. Franchi, on parle de Matisse, on parle de Raoul Dufy aussi. Pour vos inspirateurs, donc pour La jeune fille sans main,
mais
votre,
ils n'ont pas fait de film,
votre film animé, précisément.
Je ne sais pas.
Moi, il y a une autre source d'inspiration qui m'est apparue et qui m'a semblé me crever les yeux à la vue de votre très beau film, c'est l'Italie, et l'Italie médiévale et peut-être plus encore de la Renaissance. Il y a les paysages, l'architecture, des figures qu'on imagine naviguant chez Dante. Est-ce que vous avez été, vous qui étiez donc accompagnateur de votre femme à la Villa Médicis, envoûté comme l'artiste François Rouen qui, il y a quelques années déjà, s'est retrouvé à la Villa Médicis et ensuite s'est retrouvé marabouté par l'Italie et s'est transformé en moine copiste.
Moi, je suis forcément marabouté, ma femme est italienne, donc qu'est-ce que vous... et romaine en plus, donc forcément, ça transpire de partout. J'étais totalement pris par cet endroit. C'est un endroit assez étrange, la Villa Médicis. D'abord, c'est très 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 beau.
On vole les bronzes à l'occasion aussi.
On vole aussi des têtes de statues. Après, comme j'étais dans cet endroit, c'est vrai qu'il m'a marqué que j'avais besoin d'un château. J'en avais un sous les yeux, donc j'ai dessiné le château que j'avais apporté de la main. J'ai fait le film qu'avec des choses que j'avais apporté de la main.
Donc c'était conscient et pas inconscient, comme chez Antonin Pagetko.
C'était totalement conscient. Mais pour revenir sur ce que dit Antonin. Moi, je travaille avec un médium qui en fait existe, qui est aux prémices du cinéma, parce que la première projection publique, finalement, d'images en mouvement, c'était 3 ans avant celle des Frères Lumière, c'était Émile Reynaud, donc c'était un dessin animé, et en même temps, le cinéma d'animation, on est toujours un petit peu à ses balbutiements, enfin, je mets un peu les pieds dans le plat en disant ça, mais on assiste quand même à un grand essor, là, depuis quelques années, et il y a, je crois, un langage qui est vraiment spécifique à cette manière de faire des images animées et que je crois qu'on n'en a pas du tout exploré tous les horizons.
Vous voulez dire par opposition aux images de synthèse extrêmement précises que se refuse à utiliser Antonin Perejadko pour ses images réelles et les augmenter et les truquer. Vous, avec votre dessin qu'on a pu qualifier dans la première partie de notre émission d'elliptique, c'est là que vous voulez aller aussi, là où il y a des trous, des béances à explorer.
Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu en cours de route et malgré moi, lié au dispositif dans lequel j'ai fait le film. Mais ça a été une vraie révélation pour moi. Je me suis dit, oui, il y a vraiment plein de choses qui n'ont pas été encore faites, donc je l'affirme, ce film est un film révolutionnaire, je crois,
de ce point de vue. Par exemple, s'il y a une image que vous pourriez citer.
Par exemple, justement, le fait de faire, c'est un petit peu technique, et puis à la radio, c'est pas forcément très simple, mais le fait de faire une animation terminée à partir d'images qui, elles, sont toutes pas terminées, c'est-à-dire que quand on prend un film d'animation, je dirais classique, quel qu'il soit, quel que soit son auteur, quel que soit son époque, quand on fait un arrêt sur image, on a comme un tableau. Moi, quand on a fait un arrêt sur image sur le mien, on a pratiquement rien, en fait. On a beaucoup plus de vide que de plein. Et en même temps, c'est un film, je crois, très riche, très coloré, très animé, et assez dense. Et ça, je crois que ça n'avait pas vraiment été fait. J'ai du mal à regarder ce film-là. En plus, il a été vraiment terminé il y a très, très peu de temps. Donc, j'ai du mal à le voir avec des yeux clairs. Mais je sais... Ou en tout cas, j'espère que ça puisse être une source d'inspiration pour d'autres personnes qui veulent, je dis pas de faire la même chose, mais je crois qu'il y a des idées à piocher, en fait, dans la manière de fabriquer. Alors, on parle beaucoup de manière de fabriquer, en même temps, ça m'a intéressé parce que Antonin parlait de nombre d'images par seconde tout à l'heure. C'est très rare quand on parle de film en prise de vue réelle de parler du nombre d'images par seconde. On en parle surtout quand on fait de l'animation, justement. Donc, moi, je peux dire, voilà, j'ai fait tant de dessins par seconde. En général, on me demande, mais combien il y a de dessins pour le film, voilà, parce que ça fascine les gens. Mais le cinéma, c'est aussi de la technique, beaucoup de technique, c'est de la technique même lourde. Enfin, moi, je ne fais pas le même métier qu'Antonin, même si je travaille avec des images en mouvement. Mais bon, il y a bien un moment où la caméra, il faut la mettre quelque part, les lumières, il faut les mettre quelque part, les comédiens font bien leur dire, voilà, tu fais ça et ça, et puis il y a des tas de problèmes. Voilà. Et ça, on n'en parle pas très souvent, je crois. On en parle souvent quand il s'agit de l'animation, mais pas très souvent quand il s'agit du cinéma de prise de vue réelle. Mais c'est très concret. Et donc, forcément, quand on dessine, on a des problèmes très, très concrets. Et il y a un lien, comme dans la peinture, comme dans tous les arts, il y a un lien direct entre cette chose très factuelle qui est de faire un trait sur un bout de papier et le sentiment qu'on va faire passer, la sensation qu'on va faire passer, enfin, tout est lié, quoi. Donc forcément, la technique engendre une esthétique et je pense que pour toi, Antonin, ça doit être la même chose.
Antonin Perejadko.
Et du reste, il y a quand même quelques effets spéciaux numériques dans le film. Par exemple, à un moment,
faut pas dire ça.
Faut pas le dire. Non, c'est pas grave. Alors, surtout, ne le répétez pas à ceux à qui. Voilà. Et donc, Par exemple, il y a une fusée qui décolle en arrière-plan. Donc ça c'est un effet numérique. Mais ça, et parce que je voulais vraiment, à un moment, il y a quelqu'un qui fait un discours dans un bidonville, et ça c'est inspiré vraiment de. J'avais lu un discours de François Mitterrand dans les années 80 qui était à Cayenne pour visiter la fusée et il avait dit on ne peut pas laisser décemment la fusée décoller au-dessus des bidonvilles. Bon, donc 25 ans plus tard, c'est rien n'a changé. Alors ça m'intéressait, par exemple, de montrer ça. Sauf que un décollage de fusée, c'est un peu délicat. Donc du coup,
vous l'avez représenté quand même d'une autre manière. Mais est-ce que de la même manière qu'il y avait des zones, en tout cas béantes du cinéma d'animation, qui n'avaient pas été explorées pour Sébastien Lodenbach et des choses, à inventer entre Miyazaki et Moi moche et méchant, par exemple. Est-ce que vous, dans la comédie populaire, celle de La poursuite du diamant vert, celle de Crocodile Dundee, dans ce genre de la comédie populaire dans la jungle, il y avait aussi des choses qu'il fallait explorer ou au contraire dynamiter? J'ai l'impression que vous avez pris tout ça et vous l'avez un peu envoyé en l'air pour faire table rase.
Oui, peut-être. En tout cas, non, je pense qu'il y a des choses qui ont été délaissées. Par exemple, c'est tout l'aspect d'avoir un point de vue sur la société comme pouvaient l'avoir les gens du muet, c'est autant Chaplin qu'Harold Lloyd, comme je disais tout à l'heure, ou Buster Keaton, c'est-à-dire que le burlesque finalement ou la comédie servent de critique de la société par grâce au vert au vert grossissant de l'humour qui va tout à coup montrer ou pointer du doigt des absurdités ou des injustices de la société et finalement donner à réfléchir par un regard différent plutôt que l'atermoiement ou le pleurnichage sur des choses. Et donc je trouve que ça fait très longtemps, en tout cas en France, que la comédie a délaissé ça et on arrive finalement à des comédies qui sont des comédies finalement un peu gratuites.
Ça opine du chef dans le studio.
Vous êtes de retour et vous allez nous offrir une écoute gratuite ce soir avec le disque du jour. Mais alors, est-ce que c'est un disque critique engagé et ou un disque humoristique?
Eh ben, ni l'un ni l'autre. C'est un disque tout frais puisque c'est le premier album d'un jeune quatuor rock, électro, un peu tout ça à la fois, tout frais, qui s'appelle Alf. Ils sont quatre, ils sont donc niçois, mais ils ont composé leur premier album après un premier EP qui était assez joli, qui s'appelle Between Moon and Sun, qu'ils ont composé en Bretagne. Et oui, j'y reste en autarcie pendant plusieurs semaines. Et ça donne quelque chose d'assez joli, d'assez neuf, d'assez puissant, avec des vraies trouvailles mélodiques, des changements de structure qui nous laissent parfois presque en lévitation, et des textes qui franchissent allègrement la barrière de la langue entre français et anglais, qui racontent de manière assez délicate, assez vivante, ce qui se joue quand on a 20 ans, notamment, évidemment, du point de vue de l'amour. Exemple avec ce titre, L'une ou l'autre. There's nothing to think about. No, there's no tea to hold you home. Hold you home. No, there's nothing to think about. No, there's no tea to hold you home. Hold you home. Thank you. L'une ou l'autre extrait du premier album de Alpes, comme les montagnes. Leur nouvel album s'appelle Between Moon and Sun. Il va le sortir exactement vendredi prochain et ils seront en concert. C'est ce qu'on appelle une release party au Point Éphémère à Paris le 14. Donc, si je ne m'abuse, c'est lundi. Puis le 22 juin à l'autre canal à Nancy et le 24 au Fort Carré.
Lundi 15, mais bon.
Je dis lundi 15, donc probablement c'est dimanche.
Voilà.
Merci Zoé. Et ce sera lundi, vous, qu'on vous retrouvera.
Ping-pong. Mais c'est déjà fini.
Merci beaucoup, Bessie. C'est scandaleux.
On va aller voir nos films. Enfin, en tout cas, La Loi de la Jungle, ce sera une continuité de mon discours.
Voilà. La Loi de la Jungle avec Vincent Macaigne, Vim à la Ponce, Pascal Légitimus et toute une foultitude d'autres talents.
Mathieu Amalric, Fred Touche, Rodolphe Pouli, Jean-Claude Bideau, juin. Pascal Taniati, Thomas Porcherie, Philippe Lodenbach.
Tiens donc.
Entre autres. Merci à vous.
Merci
Antonin
à vous. Merci
à vous. Quant à vous, Sébastien Lodenbach, votre film qui tient donc non seulement de la révolution technique, mais d'abord d'une révolution esthétique, sensuelle et sentimentale. C'est La Jeune Fille sans main, librement adaptée donc des frères Grimm, qui sera en compétition au Festival du film d'animation d'Annecy dans les Alpes du 13 au 18 juin. Une projection aura lieu le 16 juin.
Oui, tous les jours même.
Tous les jours.
Oui. La projection officielle a lieu le 13, lundi 13 donc. Et voilà, tous les jours.
Le ping-pong est une animation radiophonique qui se prépare en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Pierrick Monsigny et Jacques Hubert.
Mais comme le dit Sébastien Lodenbach, quand il reste un trou, une béance, eh bien ça transforme l'auditeur, le spectateur en créateur. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à nos auditeurs, auditrices, créateurs, créatrices?
Lundi, c'est une bande dessinée qui revient sur l'affaire Malik Ousekine, un ancien de la BAC reconverti au polar.